Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence cet après-midi dans un cadre un peu particulier par rapport à Créativité et Territoire pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais justement, je vais laisser aussi la parole à Marc Alpert qui est organisateur de cette foire d'automne, la deuxième du nom, puisqu'on avait commencé l'an dernier déjà à collaborer à travers Créativité et Territoire, l'espace Mendès France et la fête de la science, puisque tout se conjugue un peu pour la même cause, si j'ose dire. Et donc, l'an dernier, on avait déjà fait quelques travaux ensemble, notamment à l'accueil du musée Rabelais, du musée Descartes et de Francis Métivier en tant que rock'n'roll philo. Et puis, évidemment, tout l'espace Mendès France avec toute sa démarche autour de la fête de la science. Donc, je vais laisser Marc dire quelques mots, puis ensuite, tout simplement, on laissera la parole à Paul Ariès sur cette histoire politique de l'alimentation. Quelques petits clins d'œil à nos préoccupations locales. Évidemment, l'alimentation est au cœur de la créativité dans les territoires, ne serait-ce que par la production, les producteurs, par les projets qui peuvent avoir lieu, ne serait-ce que dans notre secteur. Aujourd'hui, vous savez comme moi qu'il y a le projet de l'Institut Rebuchon à Montmorillon, il y a également la cité gastronomique de la cité de la gastronomie à Tours. Enfin voilà, on est un peu entouré par un certain nombre de projets. Peut-être intéressant de questionner à la lumière de cette intervention. Donc Marc, si tu veux dire quelques mots.
Merci. Bon, écoutez, juste simplement pour vous dire bienvenue. Cette foire, finalement, elle essaie de reprendre aussi la tradition des expositions universelles du 19e siècle, qui mélangeait à la fois le technique, le scientifique, le social, le politique, même si c'est passé à travers un 20e siècle de plus en plus commercial. La force des foires, c'est de mêler normalement, et les salons, y compris les salons professionnels les plus pointus, des dimensions économiques réencastrées dans des dimensions sociales, scientifiques, politiques et autres. C'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir accueillir la science sous toutes ses formes, et en particulier d'avoir l'honneur de recevoir M. Paul Ariès aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Bonne conférence.
Merci Marc, merci de nous accueillir dans ce lieu. Donc, on va laisser la parole à M. Ariès, qui va présenter la grosse partie de son livre. Ensuite, il y aura d'ailleurs des réponses à vos questions. Je pense qu'il y a un échange avec la salle. Et enfin, il y a une signature sur le stand de Gibert dans le hall d'exposition. Donc, M. Ariès, à vous.
Bonjour, merci pour votre invitation et merci pour votre présence. Le philosophe Démocrite disait « Le poisson ». Qu'on mange ensemble n'a pas d'arête. Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête. C'est cette maxime que j'aimerais mettre au cœur de ma réflexion avec vous. Nous connaissons aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution, c'est la révolution du contenu de l'assiette. Que mangera-t-on demain ? Alors il y a des disputes entre experts concernant le taux de renouvellement. C'est globalement entre 60 et 90%. Je dirais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que nos petits-enfants ne mangeront pas comme nous. Vous me direz qu'on ne mange pas non plus comme mangeaient nos parents et nos grands-parents. Mais ce qui est inédit, c'est à la fois l'ampleur, le rythme de cette révolution du contenu de l'assiette. Ce qui est nouveau surtout, c'est que ce renouvellement ne répond pas à des évolutions culturelles, religieuses, climatiques, mais d'abord à des évolutions techniques et économiques. Cette révolution du contenu de l'assiette, vous la connaissez, il s'agit des OGM, des alicaments, des aliments restructurés, bref, des biotechnologies alimentaires. Il s'agit également des nano-aliments, et des méthodes comme la ionisation, l'irradiation des aliments. Cette révolution du contenu de l'assiette motive beaucoup d'inquiétudes, de combats dans la société. Je dirais que nous n'avons sans doute encore rien vu, puisque cette révolution, c'est surtout celle de la fin programmée du lien qui existe depuis la nuit des temps entre l'agriculture et l'alimentation. Il y a deux rapports récents, l'un de l'Académie militaire britannique et l'autre de l'Académie militaire du Canada. Les militaires s'intéressent beaucoup aux questions d'alimentation. Et ces deux rapports nous annoncent l'avènement d'une alimentation totalement artificielle. C'est-à-dire d'une alimentation sans paysans, et j'ajouterais sans mangeurs dignes de ce nom, c'est-à-dire sachant ce que manger veut dire, puisque je suis convaincu que la dimension symbolique et rituelle de la table est essentielle. Par dimension symbolique, je veux dire que manger tel produit exprime quelque chose. Ainsi, manger chinois, ce n'est pas avant tout manger du riz avec des baguettes. Ça, c'est l'apparence. Manger chinois, c'est savoir que chaque mets, de par sa forme, de par sa consistance, son mode de cuisson, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, il faut obligatoirement manger quelque chose d'arrondi, parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut manger quelque chose d'allongé, parce que c'est une promesse de longévité. La disparition de cette dimension symbolique et rituelle contribue aujourd'hui à l'affaiblissement de l'alimentation dans sa dimension collective. Mais il y a d'autres mutations qui importent. Par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui aux États-Unis, nous en sommes à 12 prises alimentaires en moyenne par jour. C'est-à-dire on n'arrête plus de manger, donc si on ne cesse plus de manger, on s'alimente, mais on ne mange plus véritablement. Par dimension rituelle, j'entends aussi les multiples façons de passer ou de ne pas passer à table, de choisir de manger avec les doigts ou avec des couverts. L'alimentation ne satisfait pas que le corps biologique. L'alimentation doit satisfaire aussi le corps onirique, le corps social, le corps spirituel et également le corps politique. Il existe déjà beaucoup d'histoires de l'alimentation, des histoires sociales, des histoires culturelles, religieuses, techniques. Mais il n'existait pas d'histoire politique de la table. Et j'ai voulu, effectivement, en reprenant l'enseignement que je donne depuis un peu plus de 20 ans, essayer de montrer en quoi l'alimentation et le politique se croisent depuis la nuit des temps. Cette première évolution, celle du contenu de l'assiette, en masque une seconde tout aussi importante. Non plus que mangera-t-on demain, mais comment mangera-t-on et qu'est-ce que manger veut dire. Le maître mot de la première révolution, c'est l'artificialisation de la table, son industrialisation. Et le maître mot de la seconde révolution, c'est la déstructuration du repas. Utiliser une formule un peu choc, on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, et j'ajouterais avec n'importe qui. Quand on regarde effectivement l'histoire de l'alimentation, on se rend compte que la question de savoir avec qui je partage est un grand enjeu historique. La table, c'est à la fois un marqueur de proximité, mais aussi un marqueur de distanciation. Accepter de prendre un verre ou refuser de prendre un verre avec quelqu'un. Cette déstructuration est le maître mot de la délocalisation, de la désocialisation, de la désymbolisation, de la déritualisation de la table. Alors savez-vous quel est le plat le plus consommé au monde? Alors c'est la pizza. Mais pour pouvoir globaliser la pizza, il a fallu d'abord la désitalianiser, c'est-à-dire qu'il a fallu enlever ce qui était trop typé, l'ail et le basilic frais. Et on en a fait une sorte de pâte sur laquelle on peut mettre un peu n'importe quoi, y compris de l'ananas. Mais cet appauvrissement culinaire, culturel, ça a bien été la condition du succès commercial de la pizza. Le succès de ce qu'on aurait tendance à appeler aujourd'hui la néfaste food, je dirais c'est le fait de viser les sensations organoleptiques de base. Le sucré, le salé, le craquant, le croustillant. On pourrait presque parler d'un palais reptilien comme on parle d'un cerveau reptilien. Je dirais le secret de McDo, c'est véritablement de viser ces sensations-là. C'est la raison pour laquelle McDo n'est pas spécifiquement nord-américain ici. Le Portugal avait été le pays le plus avancé dans la globalisation, et bien McDo aurait été portugais. Si je veux faire plaisir à un enfant, quelle que soit son origine, européenne, américaine, africaine, asiatique, je lui donne un bon goût. Parce qu'on sait que le sucre, c'est immédiatement plaisant. Et vous savez également qu'il existe des plaisirs plus raffinés en matière de gastronomie, sauf que le plaisir alimentaire, eh bien cela séduit. Et je dirais qu'aujourd'hui, on le voit, nous mangeons largement sous le dictat du marché. Alors on peut faire un parallèle rapide entre l'évolution de la table et l'évolution de la musique et de la danse. La musique actuelle est caractérisée par la suprématie du rythme binaire sur notamment la mélodie. Le rythme, c'est ce qui résonne le plus avec le corps biologique. Je demandais tout à l'heure comment on avait mondialisé la pizza, mais on peut se demander comment a-t-on mondialisé le djembé. Le djembé, au départ, c'est un véritable instrument de musique du peuple malinké, qui permet de jouer des polyrythmies, de répondre à d'autres instruments. Mais pour pouvoir effectivement le globaliser, heureusement c'est pas toujours vrai, eh bien on en a fait une sorte de tam-tam binaire. Le boum-boum comme effectivement modalité de toucher immédiatement le plus grand nombre. Je disais également qu'on pouvait faire un parallèle entre l'histoire de l'alimentation et l'évolution des pas de danse. Les danses traditionnelles sont presque toujours des danses collectives, parce que c'était une façon de rappeler le primat du collectif. Au XIXe siècle, montée de l'individualisme, on invente la danse à deux. Et dans notre société hyper individualiste, on danse tout seul. C'est-à-dire que le corps exprime une partie de la réalité sociale, politique. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Je voudrais maintenant parcourir avec vous rapidement 2 millions d'années d'histoire de l'alimentation. Alors j'ai tenu effectivement à ce voyage très long parce que je suis convaincu que plus on regarde loin en arrière, plus on a des chances de pouvoir comprendre demain matin et pourquoi pas après-demain, à travers effectivement la recherche de grands invariants. Donc on peut comprendre ce qui nous attend et peut-être également l'éviter si cela ne nous plaît pas. J'insisterai davantage cet après-midi sur le moins connu, c'est-à-dire le lointain passé. Je parlerai très peu d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion dans d'autres ouvrages, notamment dans La faim des mangeurs FIN, de montrer effectivement vers quel type d'alimentation on va. Alors concernant les tables préhistoriques, je voudrais rapidement vous parler des tables paléolithiques inférieures et supérieures, de la table du mésolithique et de celle du néolithique. Vous allez voir que presque tout ce que nous avons dans la tête est faux. Nos plus lointains ancêtres étaient déjà de vrais humains. Ils savaient ce que manger voulait dire. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas seulement pour vivre. L'histoire de l'humanité, je dirais, c'est largement une histoire de l'humanisation à travers sa table. C'est-à-dire l'humanité s'est humanisée en humanisant son alimentation. Et pour cela, en mettant à distance des nutriments pour en faire des aliments. À travers l'invention de techniques, des techniques de cueillette, de chasse, de stockage, d'assaisonnement, à travers l'invention d'objets, d'outils, à travers le développement de symboles et de rituels. Je distinguerai sommairement donc trois périodes, paléolithique, mésolithique, néolithique. Concernant le paléolithique, une période qui court de moins 2 millions d'années à environ moins 7 000. On sait qu'a existé une vingtaine d'espèces d'hominidés avec des régimes alimentaires très différents. Notre plus ancien ancêtre était végétarien, mais très vite il développe une dentition d'omnivore, donc cela signifie qu'il y a une consommation accrue de viande. Ce grand consommateur de gibier est aussi un grand consommateur de fruits, de baies, de racines, de tubercules. Il y a déjà des préférences alimentaires. Les cervidés sont davantage utilisés pour la viande, alors que l'ours est davantage destiné à la fourrure. On mange beaucoup de poissons. La signature biologique d'Homo sapiens est d'être un omnivore, ce qui a permis à Claude Fischler de jouer avec les mots en parlant d'omnivore avec un H. Homo sapiens a une ossature beaucoup plus fine que Néandertal. Il a donc besoin de beaucoup moins d'énergie, ce qui est un avantage sur le plan alimentaire, c'est-à-dire qu'il va manger moins et penser plus. Il va organiser autrement son approvisionnement végétal et carbone. C'est la période où on va créer des stocks et on va imaginer des techniques sophistiquées de conservation. C'est la période où on va apprendre à jouer avec le feu. C'est la période où on va réaliser des mélanges. Qui dit mélange dit assaisonnement. Donc recherche du plaisir. Bref, ce n'est plus seulement le besoin physiologique. C'est d'autres dimensions de l'alimentation qui apparaissent. Le plaisir se développe comme la coordination des mouvements, le sens de l'observation. Le premier outil sera le bâton à fouiller, puis le gourdin, c'est-à-dire des outils directement liés à l'activité d'alimentation. Les premiers récipients sont des trous creusés dans la terre. Le paléolithique supérieur, c'est la période des grands froids, avec un recul du végétal. C'est donc la période des grandes chasses, le bœuf, le bison, les chevaux, les rennes. La chasse impose la coopération. La chasse impose aussi le partage. Un chasseur ne mange jamais son propre gibier. C'est à l'occasion des premiers grands rassemblements de chasseurs qu'on va développer les premiers rituels religieux basés sur l'abondance du gibier et qu'on va organiser les premiers grands banquets. Le stockage de quantités importantes de viande étant impossible, on va inventer la logique du don et du contre-don entre groupes. Les stocks, d'après les préhistoriens, spécialistes de l'alimentation, représentent cependant déjà une année de consommation en plus de l'année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer nos lointains ancêtres vivant en permanence dans une situation d'insécurité ou de peur dans le champ alimentaire. Donc cette alimentation est assez diversifiée, avec grande activité de pêche en mer ou douce, avec récolte de coquillages, consommation de poissons, d'œufs, consommation de mousse, de lichen, de fruits et de quelques céréales sauvages. Je vous ai fait rapidement 6 réflexions. Première réflexion, c'est que les hommes préhistoriques étaient au départ autant des charognards que des chasseurs. Le grand bouleversement, ça va être l'invention du propulseur à javelot, puis de l'arc. Deuxième réflexion, on a souvent l'idée que la cueillette serait féminine et que la chasse serait masculine. C'est en réalité une opposition en partie fausse. Ce ne sont pas les activités qui sont différentes, mais ce ne sont pas les mêmes armes de chasse. Le grand tabou, c'est le mélange du sang menstruel des femmes et du sang animal. Donc la peur du contact. C'est la raison pour laquelle les femmes vont assommer, les femmes vont empoisonner, alors que les hommes utiliseront des techniques plus percutantes. Troisième réflexion, c'est que le stockage, c'était non seulement un grand enjeu historique, ce qui permet la soudure entre deux périodes de chasse et de cueillette. J'insiste d'ailleurs sur le fait qu'il y a déjà du stockage chez les nomades, puisqu'ils savent revenir plus tard dans un certain nombre de lieux. Mais le stockage, c'est aussi une des premières formes de création des biens communs. de l'apparition du politique. Alors comment va-t-on stocker ? Par dessiccation, par séchage au soleil, par congélation dans les terres ou dans les eaux gelées, par salage, par enrobage de graisse, d'argile, de miel, de sucre, de divers arbres, par l'utilisation d'herbes ayant une fonction fongicide ou antibactérienne, par la fermentation acide, c'est-à-dire en fait l'origine des toutes premières soupes et des premiers plats, c'est-à-dire de l'alimentation conservée dans des tubes. Quatrième réflexion, l'importance de l'assaisonnement. L'assaisonnement change le statut de l'alimentation. Assaisonner, c'est instaurer la cuisine. Et donc, on a inventé la cuisine bien avant la maîtrise du feu, bien avant la poterie ou la céramique. Et je dirais que ces assaisonnements, ces premières cuisines, vont se faire en utilisant les creux dans les rochers, les coquillages, la peau des bêtes, des trous dans la terre, des écorces, des crânes, des os, comme premier instrument. Une grande caractéristique du premier assaisonnement, c'est l'amour du pain. L'amour du pain, l'importance de l'utilisation de la moelle, des os et des cervelles. Je disais tout à l'heure, le premier plat dans l'histoire de l'humanité, c'est une sorte de bouillon de gras, qui est l'ancêtre de toutes les préparations culinaires. Cinquième réflexion sur cette période, la cuisson. Très souvent, dans le secondaire, on lit la cuisson à l'invention, à la maîtrise du feu. En réalité, la cuisson a précédé le feu par l'utilisation de pierres chauffées au soleil. D'ailleurs, les préhistoriens ne cessent d'avancer la date de maîtrise du feu. Quand j'étais encore jeune, on me disait il y a 500 000 ans. Aujourd'hui, les spécialistes débattent pour savoir si c'est moins 600 000 ou moins 1 million d'années. Le feu, d'ailleurs, a d'abord été utilisé pour l'éclairage. 40 grammes de graisse, c'est à peu près une heure d'éclairage. Et on a su très vite utiliser différents types de combustibles selon les feux souhaités en alimentation. C'est-à-dire des feux différents pour fumer la viande, des foyers avec conduit d'aération pour une cuisson plus rapide. Autrement dit, nous sommes très loin de l'image du bon sauvage. La production du feu est, selon les spécialistes, dès le départ, un acte symbolique. Et faire du feu, ça restera un acte symbolique durant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Par exemple, frotter deux morceaux de bois pour faire du feu sera interdit par l'Église vers l'an 800. Parce qu'on avait encore en mémoire cette dimension symbolique, sexuelle, liée effectivement à la production du feu. Donc pour aller vite, je crois qu'il ne faut pas avoir de vision misérabiliste de l'alimentation à cette époque, pas de vision misérabiliste concernant la cuisson des techniques, puisqu'on avait des grillades sur pierre calcinée, du rôtissage en utilisant des broches en bois vert, de l'eau chauffée avec des pierres ardentes, de la consommation à la vapeur en faisant tomber de l'eau goutte à goutte sur des pierres brûlantes. La maîtrise du feu a bien sûr favorisé la consommation de viande, la consommation de soupe, de bouillie et les premières galettes. Les spécialistes nous disent d'ailleurs que très vite on aura des soupes variées, avec des soupes acides et des soupes douces. Sixième réflexion, avant d'aborder l'alimentation du Mésolithique, c'est que l'alimentation a été un prétexte, dès le départ, à créer des biens communs. Ce qu'on pourrait, bien sûr, c'est une provocation à penser, nommer les premiers services communs. Donc création des biens communs par l'organisation des grandes chasses, par l'organisation du stockage, par l'organisation des échanges, par l'entretien du feu, et bien sûr par la commensalité, le fait de partager le repas. La société politique vient de l'habitude de faire ensemble, et de faire ensemble un certain nombre de choses, dont naturellement l'alimentation. Donc deuxième période pour aller vite, l'alimentation au Mésolithique. Donc le climat est plus doux, l'alimentation va devenir plus végétal. C'est la période des derniers chasseurs-cueilleurs, avec le développement des premiers villages semi-sédentaires, des premiers silos, hein, des premiers greniers, là encore, création de biens communs. C'est la période de la domestication animale. Le chien, à peu près 10 000 ans avant notre ère, la chèvre et le mouton, 7 000 ans, le bœuf, le cochon et l'âne suivront relativement vite. Mais très vite, on constate que la préparation des viandes domestiques et sauvages va devenir différente, sans qu'on sache véritablement pourquoi. On a également une surconsommation des jeunes animaux, afin de pouvoir utiliser le lait. Et on a une surconsommation des mâles pour pouvoir préserver les reproductrices. C'est une période caractérisée aussi par une grande cueillette des mollusques, des crustacés, bigorneaux, patelles, perniques, moules, clovis, couteaux. Ceci grâce à un outillage rustique, mais largement suffisant. C'est une période de pêche en rivière, avec des petites embarcations, mais aussi avec l'empoisonnement de cours d'eau. On empoisonne les cours d'eau avec notamment du laurier rose, de la férule, etc. C'est le début également de la domestication végétale. Et on peut véritablement parler d'une civilisation végétale. J'insiste d'ailleurs sur un point, très souvent on pense que les chasseurs avaient une activité collective et que la cueillette était individuelle. On regarde les stocks accumulés, on est convaincu aujourd'hui que la cueillette était collective et que la consommation était également collective. C'est-à-dire qu'on avait des banquets végétariens. Ces végétaux sont travaillés pour les rendre comestibles. Lavage prolongé pour éliminer les substances toxiques, tranchage, séchage, rôtissage, fermentation. Mais on va aussi mélanger, assaisonner les végétaux pour les rendre meilleurs. Et cette période est aussi celle où, j'arrive pas à se dire malheureusement, on regarde ce qui est venu dans notre société, on va inventer un nouveau type de festin, ce que les spécialistes appellent les festins de compétition. C'est-à-dire que l'alimentation va devenir un bien de prestige. L'alimentation va devenir un marqueur de hiérarchie sociale. Grâce à l'organisation de grands banquets, on peut faire étalage de sa richesse avec une obligation de surenchérir, de vendre. C'est la période où, effectivement, la société commence à se diviser, avec notamment l'apparition des premiers banquets discriminatoires, c'est-à-dire les banquets pour les premières sociétés, on pourrait dire secrètes, de type chamanique. Ça, c'est lié, effectivement, au développement de l'alimentation principalement végétale, puisque derrière ça, c'est le thème de la Renaissance qui est toujours en place. Et une petite minorité, j'ai quelques amis préhistoriens qui disent que c'était déjà les 1% contre les 99%, mais une petite minorité qui va mettre la main sur l'histoire alimentaire, parallèlement au développement du phénomène religieux. C'est-à-dire que cette minorité va acquérir le monopole de la consommation des premières boissons fermentées. Parce que ces premières boissons fermentées étaient la condition d'accès au surnaturel. C'est-à-dire que grâce à la consommation des premières boissons fermentées, on pouvait s'imaginer communiquer avec l'au-delà, avec nos mains, mais effectivement tout le monde ne pouvait pas. Et le grand préhistorien Brian Eden avance une thèse que j'aime beaucoup, c'est la thèse du triple A pour ses premiers chefs. Il dit que ses premiers chefs étaient avides, agressifs et accumulateurs. Je ne suis pas certain que les choses aient beaucoup changé sur plusieurs millions d'années. Troisième type de nouveaux festins, ce sont les banquets funéraires. Là aussi, avec un parallèle entre le cycle végétal, c'est-à-dire les résurrections annuelles de la nature et les formes religieuses naissantes. C'est le moment où se développe le thème de la grand-mère protectrice, avec aussi des pratiques visant à diviser la société. Par exemple, des déformations du crâne réservées aux seuls chefs et à leurs enfants. C'est une période de changement des grands symboles. C'est-à-dire, c'est une période de représentation quasi féminine. C'est la période du début de la hiérarchisation des symboles. La déesse mère, qui est la clé de voûte, représentation des Vénus, avec des bassins, des seins hypertrophiés, tout ceci venant célébrer la fécondité. Représentation des mains, ce sont toujours des mains de femmes d'ailleurs, des mains gauches et des mains à quatre doigts. C'est le moment où se constituent les premiers villages avec enclos, mais des villages avec des maisons rondes, tout ceci en relation directe avec le thème de la fécondité. Troisième époque, pour aller très vite, celle du néolithique. Vous connaissez tous la thèse classique, la sédentarisation aurait permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. Cette thèse est de plus en plus remise en cause. La nouvelle thèse, c'est que la révolution néolithique n'est ni révolutionnaire, ni néolithique, car existaient déjà des sociétés de cueilleurs-chasseurs sédentaires. L'homme, l'humanité, a vécu 99% de son histoire grâce à la chasse et à la cueillette. L'agriculture n'existe que depuis 10 000 ans, soit à peu près 500 générations. Et ce que les préhistoriens aujourd'hui considèrent, c'est que ce passage à l'agriculture n'avait rien d'obligatoire. Et on sait aujourd'hui que ce passage à l'agriculture ne s'est pas fait par une évolution des peuples autochtones, mais a été mis en œuvre par des groupes humains venus d'ailleurs, et en l'occurrence venus de l'Est. Ce ne sont pas les populations locales qui sont devenues agricultrices, car elles sont restées adeptes de la chasse et de la cueillette. Et ces populations locales seront très vite marginalisées économiquement, politiquement, avant de revenir plus tard sous la forme des guerriers, des premiers guerriers, avec des habitats différents, une alimentation différente. L'élevage au néolithique, principalement le porc, la chèvre, le mouton, l'exploitation laitière, c'est sans doute le premier objectif des éleveurs. Car l'élevage n'apporte rien par rapport à la chasse. La chasse est plus diversifiée, elle est plus souple. En fait, la consommation de viande était probablement un sous-produit, à l'exception du porc. Le porc était déjà l'aliment gardé par excellence. Si on faisait de l'élevage, c'était pour pouvoir avoir du lait et faire les premiers fromages. Le mouton était aussi également utilisé d'abord pour le textile, pour les os. La chèvre était utilisée d'abord pour le lait. Donc l'agriculture au néolithique, ce n'est pas la simple poursuite de la cueillette par notre monde. Déjà parce que l'on va sélectionner de façon drastique. Il y a 8 plantes qui sont à l'origine de l'agriculture. L'engrain, l'amidonier, l'orge, les lentilles, l'ers, puis le lin et les pois chiches. Dès qu'on développe l'agriculture, on va devoir obligatoirement maîtriser davantage la collecte du sel. Le chasseur, à travers la consommation de viande, ou le berger, à travers la consommation de sang et lait, ont suffisamment de sel. Mais la cuisson des végétaux élimine le sel. Donc il va falloir trouver du sel ailleurs. Sel de mer, sel de gemme. C'est la période où effectivement on va introduire le sel comme l'un des principaux éléments de la saison. Sur les festins du néolithique, c'est la période où on va développer des lieux fermés, donc des festins fermés, dans des maisons communes, toujours ayant des formes arrondies, alors que les maisons ordinaires sont devenues des maisons rectangulaires. C'est-à-dire qu'on a eu un changement de symbolique. Importance à cette époque-là des conseils des anciens, forme obligatoire de transmission des savoirs dans des sociétés orales. Importance de la chefferie, ça veut dire la fin des repas égalitaire et encore l'obligation de gaspiller plus que le voisin pour pouvoir montrer son pouvoir. Le deuxième grand moment que j'aimerais présenter, c'est en quoi notre table actuelle reste encore tributaire des tables antiques. Donc, première table antique sur laquelle j'aimerais dire quelques mots, c'est la table de la Mésopotamie. 3400 ans avant notre ère, jusqu'à à peu près 200 avant Jésus-Christ. Sumer, Babylone. C'est la période de la naissance des premières cités-états et du développement d'un clivage entre l'alimentation des puissants et l'alimentation du peuple. C'est-à-dire que la table du peuple va devenir une conséquence du séparatisme alimentaire des puissants. Le peuple travaille pour le palais et reçoit en échange une ration. Ça, c'est un débat qui a beaucoup partagé les préhistoriens. Si effectivement, on sait qu'une infime minorité, disons c'est 1%, ont mis la main sur les stocks, comment se fait-il que les 99% aient accepté ? Sans doute, effectivement, une bonne gestion de la peur, mais aussi le fait que les puissants ont dû, pendant très longtemps, nourrir sur la base des richesses qu'ils s'étaient appropriées, le reste de la population. Donc, dès la Mésopotamie, on voit se développer le principe d'une ration obligatoire. Chacun est certain de recevoir une ration globalement suffisante sur le plan de l'alimentation, une ration qui varie selon la fonction dans la société, selon le sexe, selon l'âge. C'est par exemple 2 litres d'orge par jour pour un homme et 1 litre pour une femme. La nourriture de base, c'est une nourriture panifiée plus de l'eau. En fait, très très peu de bière. On mange agenouillé. Manger agenouillé, c'est en signe d'humilité, de reconnaissance, et on se sert de la main. On a déjà plus d'une centaine de types de pains différents, avec des épices, des fruits, du miel, et on va manger chaque type de pain en fonction des occasions. Là, c'est pas la liberté du consommateur moderne. Je vais manger tel pain pour dire telle ou telle chose. Le reste du repas est composé d'huile, de fèves, de grains de sésame, d'oignons, d'eau, de légumes comme des poireaux, des fruits comme des dattes, des grenades, des pommes, des figues, du raisin, etc. On fait déjà de nombreuses pâtisseries, des cakes, pain d'épices, des gâteaux fourrés de dattes, de pommes, de figues, de miel. Le poisson et la viande ne sont pas rares pour le peuple, mais le bœuf, le mouton, le canard, les pigeons, les tourterelles sont réservés aux puissants. Et le peuple mange la manche du porc. C'est sans doute le début de la diabolisation du porc. C'est-à-dire que le porc, effectivement, ressenti comme un mauvais présage, puis défini plus tard par le clergé comme étant sale, étant stupide et étant impur. Donc les troupeaux de porcs consommés par le peuple appartiennent en revanche au palais. Toujours cette obligation de nous. On oppose souvent à cette époque les boissons dites naturelles aux boissons fermentées. Les boissons naturelles consommées ordinairement, c'est l'eau, le lait. L'eau est aromatisée. Avec des infusions, des décoctions, on fait aussi de l'eau mouillée de fruits divers, des grenades, du raisin. Et les boissons fermentées, c'est l'ancêtre de la bière qu'on appelle à l'époque le liquide enivrant. C'est-à-dire cette assimilation directe de la bière à l'ivresse. On a des bières rouges, des bières noires, blanches, douces, très douces, selon les céréales. On consomme des bières coupées d'eau. C'est le début des premières tavernes. Les Babyloniens opposent les aliments dits naturels et les aliments élaborés par l'homme. Et cette alimentation artificielle élaborée par l'homme est préférée à l'alimentation naturelle. À travers notamment le couple pain-pierre. C'est-à-dire montrer qu'on est pleinement humain, c'est manger différemment que les animaux. Et donc manger des aliments transformé. Les Mésopotamiens disent que l'alimentation naturelle, c'est comme un accouplement violent avec une femme. Et ils ajoutent qu'une alimentation élaborée, c'est comme l'amour avec une femme de la ville, experte et lassée. C'est-à-dire que là, on a bien sûr le point de vue opposé de la situation actuelle avec la recherche du produit naturel et du produit bio. La table des puissants est rythmée par l'organisation de grands banquets, le palais de Mani, par exemple, 3000 pièces sur 25 000 mètres carrés, des centaines de cuisiniers, des gens sont cette spécialiste du vin, de serveurs. La maison de la reine, 400 cuisiniers, 400 pâtissiers, 220 échansons, 300 domestiques. Et le grand enjeu, c'est de faire une cuisine différente de celle des nomades. Donc on retrouve cette obligation de séparatisme alimentaire. La division de la société se dit d'abord à travers la table. Donc la cuisine au service du séparatisme social. La cuisine de tous les jours devient déjà une cuisine de femmes, et la cuisine festive devient une cuisine d'hommes. Et c'est pas d'aujourd'hui. Cette cuisine raffinée se doit obligatoirement d'être une cuisine très chère. C'est une cuisine de mélange liquide et solide, donc de soupe, de bouillie. Le mélange sert à dire en fait le double statut du roi, mi-dieu, mi-homme. C'est-à-dire qu'à travers effectivement ces stratégies de mélange alimentaire, eh bien c'est un discours que l'on tient sur la société. Donc c'est une mise en scène de la table, notamment autour de la question de la propreté. Il faut exhiber une extrême propreté, à la fois de la vaisselle, des vêtements et des mains. Le monarque et ses proches mangent assis, chacun reçoit de l'huile parfumée pour soindre les mains. Au début et à la fin du repas, on utilise des brûle-parfums qu'on dépose entre les tables. Tout banquet civil est en même temps un banquet religieux. À travers effectivement les rituels, mais aussi à travers les convictions, puisque ça dit la division de la société. Et chaque convive reçoit des victuailles en fonction de son rang. Autrement dit, pendant très longtemps, manger ensemble, ça n'a pas été manger la même chose. Pour le repas, toute viande doit être obligatoirement grillée, doit être consommée en ragoût, accompagnée de galettes, de pain, de légumes, de semoule, grande consommation de fruits et de pâtisseries. Le repas est arrosé de bière, très exceptionnellement de vin. Le roi mange seul et une ligne est faite avec de la farine sur le sol pour le protéger des autres. Le roi mange seul, assis devant une table. Et beaucoup plus tardivement, à peu près vers le 7e siècle avant notre ère, on va commencer à ce que le roi mange allongé. Le fait d'être allongé devient effectivement un symbole de pouvoir. Je voudrais maintenant peut-être aller plus vite, parce que c'est plus connu, et dire en quoi notre table reste tributaire de la table égyptienne, grecque et romaine. L'Égypte antique, c'est la première civilisation à avoir conçu sa table comme un langage. Il y a un seul hiéroglyphe pour dire « je mange » et « je mange ». C'est-à-dire que les vieux Égyptiens avaient compris le rapport entre les deux oralités, manger, boire et parler, quelques millénaires avant vous. Ils vont inventer des centaines de symboles alimentaires. Le pain, par exemple, est vécu comme le symbole de la vie éternelle. Le vin est vécu comme le symbole de l'humanisation. Parce qu'on nous dit que les animaux ne boivent pas de vin, et les dieux égyptiens, contrairement aux dieux grecs, sont réputés de ne pas aimer le vin. Donc boire du vin, c'est rappeler à l'homme qu'il y avait sa place entre les animaux et je disais que le pain est le symbole de la vie éternelle, mais en réalité, il y a des centaines de pains différents de par leur forme, plat, rond, carré, ovale, conique, avec une cavité centrale pour recevoir, par exemple, des œufs ou des légumes, mais là encore, on ne choisit pas tel ou tel pain en fonction de son bon plaisir du moment. On doit prendre tel pain pour fêter tel événement. L'Égypte antique est bien sûr caractérisée par son pouvoir centralisé, prédateur, mais il y a un système de compensation qui existe, il y a toujours un compromis social dans toute société. Donc il y a des grandes fêtes organisées pour le peuple. Ramsès III fait distribuer, par exemple, lors d'une fête, 441 000 poissons, 126 250 volailles. C'est une grande fête qui va durer plusieurs jours. Dire que les puissants ont cette obligation d'organiser régulièrement des repas pour des milliers, voire pour des dizaines de milliers de personnes. Et puis la principale, je dirais, conséquence, là encore, de la division de la société, on retrouve ce qu'on avait vu à Babylone, c'est le système de la ration. C'est une ration obligatoire. Chaque ouvrier recevra 10 pains d'un kilo et une mesure de bière. Un sous-chef de chantier recevra 100 pains, 3 mesures de bière. Un chef recevra 200 pains, 5 mesures de bière. Ils reçoivent en plus des légumes, du poisson, de l'huile, de la graisse et du bois. Grand problème dans l'Égypte antique, hein. Accéder à du bois pour pouvoir faire cuire. On dit bien, on dit aussi chic, qu'ils reçoivent beaucoup plus de produits qu'ils ne peuvent manger avec leur famille. Et ces produits sont bien sûr revendus sur le marché et permettent d'alimenter ceux qui, ne travaillant pas pour le système, sont exclus du principe de la ration. Donc le pain-bière, la ration pain-bière, est le symbole de la soumission. C'est pas un droit, comme on l'aura dans la Grèce ou dans la Rome antique, mais c'est un devoir du maître. Les élites vont bien sûr se démarquer du pain-bière populaire en valorisant le vin et en valorisant du riz. C'est-à-dire systématiquement, les puissants veulent manger, on l'a vu, autrement et autre chose. Le pain-bière dépend de l'État, c'est la dimension politique de la table, et le reste, eh bien le reste est personnel. Les plus pauvres accèdent simplement à de l'ail, de l'oignon et du sel. Les autres, c'est d'abord le potager. Oignons, ail, concombres, courgettes, haricots, poireaux, pois chiches, lentilles, fèves, laitues, asperges, céleri, choux, navets, radis, artichauts. Beaucoup de plantes aromatiques comme l'aneth, l'anis, la cannelle, des fruits diversifiés, des dattes, noix de palmier, jujubes, figues, raisins, pastèques, etc. On a la volonté de trouver une alimentation la plus grasse et la plus sucrée possible. L'utilisation de beaucoup de poissons, du Nil, bien sûr. En Égypte, des carpes, des perches, des mulets, des poissons-chats. Le poisson est consommé aussi bien frais que cru que séché, fortement salé. Beaucoup de viande. Il n'y a pas de caractère sacré à la viande, comme on aura plus tard en Grèce. C'est du chameau, pour les très pauvres, du bœuf, qui est la viande populaire par excellence, et puis également beaucoup d'animaux sauvages. L'Égypte est également grande consommatrice d'une grande variété de boissons. L'eau, des bières, des jus de fruits, des liqueurs, le vin pour les seules élites, d'abord dans un cadre religieux, puis hors du cadre religieux, des vins rouges, des vins blancs, des vins noirs, des vins sucrés, des vins aromatisés, à la figue par exemple, des vins. La table des puissants, c'est une table où tout est simple. C'est-à-dire que chacun va manger selon son statut. Les fleurs de lotus font office d'un arbre. La fleur de lotus, c'est une promesse de rajeunissement après la mort. On va jouer à table, mais avec des jeux codés, symboliques, comme le jeu du Sémet, qui est l'ancêtre de nos jeux de dames. Mais le jeu du Sémet, ancêtre de notre jeu de dames, c'est un jeu qui symbolise la traversée du monde souterrain. Toujours avec cette perspective de qu'y aura-t-il après la mort. L'Égypte antique, c'est l'âge d'or des banquets mondiaux. De la même façon que j'avais pu montrer que dans l'Égypte antique, il y avait un seul hiéroglyphe pour dire manger et parler. Eh bien, on peut voir que dans la table grecque antique, il y a un seul mot pour dire manger et partager. Manger, c'est obligatoirement partager. Et être surpris en train de manger seul, c'est une faute sociale. C'est une condamnation morale. Ce qui, dans cette société, ne pardonne pas. Mais les Grecs anciens n'étaient pas stupides. Ils se doutaient bien que parfois, on pouvait avoir un petit creux. Et qu'on n'avait pas forcément quelqu'un avec qui partager. Donc, ils ont fait une grande distinction entre la nutrition, simplement satisfaire le corps biologique, et l'alimentation. Lorsqu'on devait manger seul, il fallait obligatoirement manger debout. Alors, on verra comment on mange allongé. Il fallait obligatoirement manger des restes et obligatoirement manger froid. Parce que ça ne visait que le corps biologique. Mais en revanche, l'alimentation noble, celle qui vise le corps politique, elle est codifiée de façon importante. Donc j'ai dit un seul mot en grec ancien pour dire manger et partager. On retrouve ça dans la langue française, comme dans beaucoup de langues. Le compagnon, le copain, celui avec qui je partage le pain. L'ami, en vieil araméen, celui avec qui je partage le sel, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Le repas grec était en fait structuré en deux temps. Il y avait tout d'abord ce qu'on appelait le dépnon, qui avait lieu obligatoirement avant le coucher du soleil. Le dépnon, c'était la partie la moins importante consacrée aux aliments solides. Ce qui est solide, c'est masculin. C'est donc solaire. D'où l'obligation de manger avant le coucher du soleil. La table grecque, ce n'est pas une table particulièrement riche. Prenez par exemple la bande dessinée Astérix et les Jeux Olympiques. Vous avez des représentations de différents banquets. Vous avez notamment un banquet à Sparte. Sparte, la ville la plus grecque de la Grèce antique. On a une olive dans une assiette. C'est une caricature, mais qui nous montre bien que l'essentiel, c'est pas ce qu'on mange, c'est le partage. Vous avez à côté une représentation du banquet romain qui est plutôt juste, et puis la représentation dont on parlera tout à l'heure du banquet gauloise qui, elle, est complètement fausse. Donc le dépnon, c'est consacré aux aliments solides. La grande question, c'est de savoir avec qui on va manger. Avec qui on va manger. Et il y a trois types de convives. Il y a d'abord celui qui invite et ses proches. Il y a ensuite ses amis. Et puis il y a une troisième catégorie très intéressante. Le mot est resté en langue française avec un contenu un peu dévié. C'est ce qu'on appelle les parasites. Les parasites, c'est des gens dont la fonction sociale était de s'inviter à votre table. Parce que partager avec ses amis et ses proches, très franchement, c'est facile. Mais partager avec quelqu'un dont la tête ne vous revient pas forcément, c'est plus méritant. Et ça montre effectivement cette contrainte de partage au sens politique. Alors ces parasites étaient aussi des spécialistes de la table, du banquet, et ils allaient tenir un grand rôle dans le deuxième moment du plat qui était, on verra, le symposium. Donc ce premier moment, plutôt frugal, quasi silencieux, on mange allongé. Alors pourquoi mange-t-on allongé? Là, il y a plusieurs interprétations. La première chose, c'est sans doute effectivement une façon de dire sa puissance. Puisque être allongé, c'est un signe de pouvoir. Et puis une deuxième raison, c'est que les Grecs anciens étaient convaincus que lorsqu'on était allongé, cela détendait les muscles du dos. Ça, c'est vrai. Mais ils pensaient, ils extrapolaient, on pensait que ça libérait l'esprit. On mangeait allongé pour pouvoir penser. C'est la raison pour laquelle, sauf exception, les femmes n'avaient pas le droit de manger allongé. On ne disait pas qu'une femme, elle ne savait pas penser. On disait qu'il valait mieux pas. Et les esclaves n'avaient pas le droit non plus de manger allongé. On mangeait donc semi-allongé en bloquant avec la main gauche la partie gauche du corps. Parce que la partie gauche du corps renvoie au niveau de la cosmologie à la partie féminine. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'organisation de la table aujourd'hui. Où mettons le couteau, l'objet tranchant et masculin, à droite. Où mettons la veste découverte, à gauche, objet féminin. Où place-t-on le verre de vin par rapport au verre d'eau? c'est-à-dire nos tables représentent, reproduisent encore cette cosmologie. Le deuxième temps du repas, le plus important pour les Grecs, qui avait lieu après le coucher du soleil et qui devait se terminer avant le lever du soleil, donc on avait toute la nuit, c'était le symposium. Alors le symposium, le mot est resté en langue française, ça signifie un colloque, un rassemblement. Le symposium, c'était le moment du repas consacré à la circulation du vin et à la circulation de la parole. Les deux étaient indissociables. Et on allait obligatoirement boire du vin coupé avec de l'eau. Alors là, on a des textes de philosophes de l'époque très très précis. Pourquoi ce mélange obligatoire? C'était un principe politique. Rappelez effectivement l'obligation du métissage. L'obligation d'apprendre à vivre avec les autres. Et on avait un personnage extraordinaire. C'était le symposiarque. Alors, dans une famille relativement pauvre, le symposiarque, c'est celui qui invitait. Dans une bonne famille, c'est un esclave qui remplissait cette fonction. Le symposiarque, c'est lui qui avait pour fonction de réaliser le dosage au vin en fonction, à la fois du budget probablement, de celui qui invitait, mais en fonction aussi de la capacité de chacun à résister à l'alcool. Puisque l'objectif, c'était que tout le monde arrive dans un état de très, 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 très légère ébriété en même temps. Après, si vous avez effectivement dans le banquet de Platon et autres, des descriptions de banquets où certains philosophes arrivent complètement ivres, c'est justement parce qu'ils étaient dans la transgression. Il fallait rester maître de soi. Et donc, nécessité d'être légèrement, mais très légèrement ivre, pour pouvoir libérer la parole. Alors, de quoi parlait-on? On parlait très peu de météo. On parlait effectivement de politique, de poésie. Et puis, on jouait. Il y avait des jeux, mais là encore, des jeux qui avaient un sens. Le jeu le plus courant, c'était le jeu du kotab. Je prends ma coupe, dans laquelle restent effectivement quelques gouttes de mélange au vin, et je vais jeter ces gouttes dans la coupe de mon voisin. Bon, c'est pas très malin, mais ça permet de vérifier que vous maîtrisez encore votre gestuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop. Et pour boire, on buvait en trois temps. Le symposiarque apportait d'abord un premier grand récipient, qu'on appelait un cratère. Parce que le cratère, c'est le volcan, et c'est de là dont jaillit la lave, comme la pensée. Et on buvait ce premier cratère en l'honneur des dieux. Et ce cratère, ça pouvait être 10 coupes chacun. Ensuite, on avait un deuxième cratère, que l'on allait boire cette fois en l'honneur des héros, des grands hommes. Là encore, ça pouvait être 10 coupes chacun. Et puis on apportait un troisième cratère, qu'on allait boire en l'honneur des homoïs, c'est-à-dire des humains, des mortels. Là encore, ça pouvait être 10 coupes chacun. C'est-à-dire l'ensemble de cette partie la plus importante, le symposiarque, était totalement structuré pour signifier quelque chose. J'aurais pu rajouter, je vais aller assez vite, que par exemple pour les grands banquets politiques, notamment à Sparte, on a eu toute une réflexion sur savoir ce qu'il fallait manger. Puisqu'on avait effectivement un principe, on n'avait pas de carte d'identité dans les Grèce antique. Ce qui valait pièce d'identité, c'était le fait d'être admis au banquet. Je suis admis au banquet, donc je suis citoyen. Et qu'est-ce que doivent manger des citoyens? Eh bien, le principe, bien sûr, c'est déjà ceux qui ont droit à une part, et ceux qui n'ont pas le droit à une part pleine. Et puis le plat, j'allais dire, démocratique par excellence, c'est-à-dire qu'on invente à la fois le banquet politique et la démocratie, c'est la fricassée. Pourquoi? Parce que chaque morceau de viande est équivalent. Et qu'on ne peut plus à ce moment-là avoir des bons et des bas morceaux. Je pourrais continuer pendant des heures à expliquer, parce que c'était très fin, on entrait vraiment dans le détail. Donc on a vu ce qu'on doit à la table égyptienne, c'est cette dimension symbolique. Ce qu'on doit à la table grecque, c'est à la notion de partage. Et ce que l'on doit à la table romaine, les Romains ont toujours été des obsédés de la table. C'était vrai il y a 3000 ans et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est pas par hasard que le mouvement slow food, alimentation lente, par opposition au fast food, est né en Italie. Et donc, les Romains se sont dit, quitte à devoir manger ensemble, autant manger de bonnes choses. Et donc, il n'y a pas une société qui a autant dépensé pour son alimentation. À tel point qu'on va devoir mettre en place ce qu'on appelle des lois somptuaires. Des lois qui viennent limiter le droit de dépenser pour l'alimentation. On vous dit par exemple, pour un repas de masse, c'est tant d'argent, pas plus. Il y a des périodes où on a le droit de manger des huîtres et des périodes où c'est interdit. Il y a des repas où on est obligé de manger des choses de couleur verte. Si le législateur fait des lois, c'est bien sûr pour les faire appliquer. Et donc on a créé des brigades de police, n'est-ce pas ? Vous êtes tranquillement en train de passer à table chez vous. Ça tape à la porte et c'est une descente de police. On vient vérifier ce que vous êtes en train de manger. Alors bien sûr, nous, ça nous heurte, mais parce que nous ne savons plus ce que manger veut dire. C'est-à-dire que nous avons perdu l'habitude de considérer que notre alimentation engage toute la société, politiquement. Et ne nous engage pas simplement, nous, individuellement. Mais là où j'aime bien les Italiens, les Romains, c'est qu'ils ne vont jamais cesser de tricher. Et ils vont développer deux cuisines. Tout d'abord, ce qu'on appelle la cuisine des métamorphoses. C'est-à-dire qu'ils vont donner l'apparence, la forme, le goût, la consistance de choses interdites à des choses légales. Une sorte de pied de nez. On va, par exemple, durant les périodes, les Romains adoraient les huîtres. Et pour limiter la consommation d'huîtres, il y avait beaucoup de moments où c'était interdit. Donc un certain nombre de chefs romains avaient développé des techniques où on fabriquait, dans des vraies coquilles d'huîtres, des fausses huîtres avec des champignons. Il y a encore quelques chefs aujourd'hui qui ont redécouvert ce savoir-faire, et je peux vous assurer, pour avoir goûté, que même si on le sait, on ne voit pas la différence. Donc ils ont fait faire des progrès extraordinaires aux technologies alimentaires. Donc là, si vous étiez surpris, ce n'était pas grave, puisque vous mangez bien des choses autorisées, mais sous une apparence de choses interdites. Et puis, à côté de cette cuisine des métamorphoses, il y avait la cuisine des subterfuges. Là, on donnait la forme, le goût, la consistance de choses autorisées à des choses interdites. Donc on se débrouillait clandestinement pour manger ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Là encore, ce qui est intéressant à noter, outre la dimension morale, c'est effectivement que ça nécessitait de faire des progrès considérables sur le plan des technologies alimentaires. Ce que je retiens également de la table romaine, c'est bien sûr le fameux principe des distributions alimentaires. Rappelez-vous sans doute, durant votre scolarité, on avait sans doute tendance à vous présenter la fameuse maxime du pain et des jeux de façon assez négative. Mais ça, c'est le point de vue des puissants sur la table. Compte tenu de ce qu'était l'état de la société anti-romaine, garantir à chacun du pain, c'était la forme, c'est-à-dire de service public, de bien commun, optimale à l'époque. Et d'ailleurs, quand on dit du pain, c'est un slogan. C'est-à-dire que c'était du pain, des légumes, de la viande. Et on a eu un grand débat, à deux reprises, donc sur presque un siècle et demi. Faut-il mettre du vin dans la ration de base auquel chacun a droit ? Alors bien sûr, ce système de distribution alimentaire gratuite reposait sur le pillage du reste de l'Empire romain. Mais on avait quand même quelque chose qui finalement n'est pas si loin de débats actuels sur la gratuité de la restauration scolaire ou sur l'idée d'un revenu universel pour tous, qui anticipait. Pour aller bien plus loin dans le temps, peut-être accélérer un peu, je voudrais peut-être dire quand même quelques mots de la table gauloise. La table gauloise en dehors de la période d'occupation romaine. Vous savez que les Grecs et les Romains étaient très offusqués par la façon dont les Gaulois mangeaient. Et pas seulement parce qu'ils buvaient leur vin pur. La grande incompréhension, c'est que les Gaulois, bien qu'excellents, on disait même que c'était les meilleurs agriculteurs et éleveurs, étaient restés, c'étaient les seuls, en même temps, des chasseurs et des cueilleurs. La grande exception, on va dire culturelle française, elle était là. Un peuple qui s'entête à rester chasseur et cueilleur. Cette table gauloise, ce sont d'abord les grands banquets gaulois. Chaque prince, chaque chef a l'obligation d'offrir régulièrement des banquets à toute la population. Et chacun peut venir et manger et boire à volonté durant des jours, durant des semaines et parfois même durant des mois. Un Gaulois très riche qui voulait absolument être élu roi a nourri toute la population locale pendant une année pleine. La Gaule pré-romaine, c'est une soixantaine de peuples largement autonomes les uns des autres, chacun ayant son propre sénat, ses propres magistrats, son propre clergé. Le principe politique de base, c'est le clientélisme. On achète les suffrages, et donc chaque patron, comme on disait, a ses clients, parfois des milliers de personnes qui le suivent en permanence en cortège et auxquelles il doit bien sûr offrir gratuitement l'alimentation. Les Gaulois sont également clients de confréries professionnelles, culturelles, religieuses. Je dirais que c'est autant de bonnes raisons de banqueter. Alors là où la représentation du banquet de Astérix est fausse, c'est que le banquet gaulois a obligatoirement lieu dans un enclos. C'est une façon d'établir une séparation entre ceux qui ont droit à une part et ceux qui n'ont pas droit. Ces enclos peuvent avoir 800 mètres de côté. Donc on a affaire effectivement à des enclos particulièrement imposants. Et l'enclos lui-même, c'est la mise en scène d'une coupure, non seulement entre la communauté et le reste du monde, mais l'enclos lui-même est divisé pour respecter la hiérarchie. C'est-à-dire tout le monde n'accède pas au cœur de l'enclos. La grande obligation dans un banquet gaulois, c'est de gaspiller. La grande obligation, c'est de gaspiller. De gaspiller des aliments, de gaspiller des boissons. On va sacrifier 20 fois plus d'animaux que nécessaire, qu'il s'agisse de porcs, de moutons, de chèvres, de chiens. Parce que gaspiller, c'est montrer effectivement sa richesse. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, selon le Fonds agricole mondial, plus du tiers de la production agricole est gaspillée. Plus de 40% dans nos pays riches. Est-ce que ce n'est pas encore une façon aussi de montrer notre richesse ? La deuxième grande caractéristique des banquets gaulois, outre l'obligation de gaspiller, c'est l'importance des discours. Les banquets gaulois, ce sont des banquets où l'on parle. Il y a un film extraordinaire, c'est le Festin de Babette. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment, comment une ex-communarde va apprendre au peuple du nord de l'Europe à manger, c'est-à-dire à parler. Les mets et les mots vont toujours ensemble. Donc, importance des discours, obligation d'écouter dans le silence et de marquer ensuite son accord ou son désaccord en faisant du bruit. Grande caractéristique des banquets gaulois, c'est qu'il était strictement interdit de parler de politique. Dans la Gaule, on n'avait pas le droit de parler de politique en dehors des assemblées officielles. Un Gaulois qui passait d'une tribu à l'autre, devait obligatoirement d'abord aller voir les chefs pour savoir s'il avait le droit d'évoquer la situation des autres États gaulois. Alors, comme on n'avait pas le droit de parler de politique, on se lançait des défis. Et effectivement, on se bagarrait beaucoup. Et là, vous retrouvez sur les scènes traditionnelles d'Astérix, la bande dessinée. Donc, on mangeait et on buvait avec excès. Les repas étaient pris assis sur des bancs avec des galettes, beaucoup de fromage, de charcuterie, de bœuf grillé, beaucoup de porc, hein, beaucoup de porc, mais aussi du mouton. On buvait de la cervoise, c'est-à-dire ancêtre de la bière, de l'hydromel. Les Gaulois avaient une réelle supériorité agricole, hein, on utilisait déjà les fumures des sols, les rotations, les associations de cultures. Les végétaux étaient consommés en salade, en soupe, ajoutés à des bouillies, beaucoup de fruits, beaucoup de baies. Sauvages, des pommes, des fraises, des framboises, des prunes, du raisin. Le pain était réservé à la seule aristocratie. Pour aller très vite, je voudrais dire quelques mots sur la table mérovingienne. L'un de mes souhaits en écrivant l'histoire politique de la table, c'était de réhabiliter la table mérovingienne. Là aussi, rappelez-vous les images d'Épinal, les fameux rois feignants. Véhiculé dans un chariot avec des bœufs. Ça, c'est l'image que les Carolingiens ont imposée des Mérovingiens. La table mérovingienne, c'est plutôt une période d'abondance et de diversification. Les Mérovingiens, ils aiment manger. Et ils mangent beaucoup. Et ils mangent autrement que les Francs, qui sont les nouveaux maîtres du pays. Louis, hein, roi des Francs. Ces élites barbares sont des buveurs de bière et de gros mangeurs de viande. Ils mangent assis à table à la façon, pour les Grecs et les Romains, des esclaves et des femmes, et non pas comme les citoyens romains et grecs. Ils partagent également leur repas avec leurs épouses et leurs enfants. Les banquets sont essentiels puisque le roi est itinérant. Donc le fait de banqueter au fur et à mesure de ses déplacements, c'est la base d'organisation politique du royaume. Première phase après l'effondrement de l'Empire romain, c'était le retour à la cueillette et à la chasse. Ce qui a permis au petit peuple de mieux manger. La deuxième phase, malheureusement, ça a été l'alliance entre les anciens et les nouveaux maîtres sur le dos du peuple. C'est-à-dire que le barbare, c'est plus celui qui boit de la bière. C'est plus celui qui mange de la viande. Le barbare, ça devient celui qui vit des forêts, des marais et des landes. Et l'Église va s'allier avec le seul peuple non chrétien, en fait, les Francs, pour mieux combattre le paganisme gaulois et les hérésies chrétiennes. Et l'Église va même abandonner son propre principe de frugalité pour plaire aux Francs et va défendre avec Sidoine Apollinaire l'idée que bien manger, c'est beaucoup manger. Mais qu'il faut compenser la voracité par la lecture de textes sacrés ou de conversations religieuses. Et l'Église va défendre l'idée que les puissants doivent beaucoup manger, et même beaucoup manger de viande. Mais que, en revanche, chacun doit manger en fonction de son statut social. C'est-à-dire qu'on va développer ce qu'on appelle le péché de goula, le péché de gourmandise. Et le péché de gourmandise, c'est pas tant le fait de trop manger que d'envier la table des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on appartient à l'essentiel de la population, de désirer manger, comme les puissants. Pour aller très vite, je dirais que notre table moderne est ensuite redevable de trois grands coups politiques. Le premier grand coup politique, c'est sous la monarchie absolue. La monarchie absolue va inventer la table absolue. Louis XIV, roi soleil, qui se veut le centre du monde. La France, une église, a une architecture, une danse, des jardins qui à la française. Mais on n'a pas de cuisine. Lorsqu'on veut bien manger, on mange tout à fait. Donc on va s'interroger, on va interroger des spécialistes, des théologiens, des agronomes, des philosophes. Et on va leur dire, inventez-nous la table française. Volontarisme. Et ça va nous donner quoi, si je résume, sans trahir? La table française égale cuisine italienne plus des sauces. L'art des sauces. Et pour cela, on va inventer une sorte de technique. Avec effectivement la possibilité de réduire les viandes, de conserver les jus. C'est l'époque aussi où on va développer de façon très importante la pâtisserie. La pâtisserie, c'est considéré comme une branche de l'architecture. La science des formes. La géométrie. Or, rappelez-vous ce qui était inscrit sur le fronton des temples grecs, que nul d'entre ici, c'est le mec géométrique. Donc, la pâtisserie, c'est une façon, déjà, de marquer la puissance de la raison face, effectivement, à une église obscurantiste. Deuxième coup politique majeur, je vais vite, mais le temps passe, c'est la philosophie. Les philosophes des Lumières, Tartre ou Borsa, diront que ce n'est pas dans des bouquins de films qu'on va former le bon père de famille, comme on disait à l'époque. D'ailleurs, le bon citoyen, la bonne citoyenne, c'est rien. Si les gens apprennent à différencier les savoirs, il y a plus de chances qu'ils sachent aussi différencier les idées. Et la traduction de cette conception politique, philosophique de la table, c'est avec la Révolution française. La Révolution française va bouleverser notre conception, notre pratique de la Révolution. C'est déjà la fin du vieux service à la française. On a porté tous les plats en même temps, avec un certain nombre de services non papillonnés. Papillonner, c'est plaisant, mais ça ne se pense pas. Et donc l'objectif, comme on dit à l'époque, c'est d'arriver à marier la République avec la République du cœur et la République de la raison. C'est la raison pour laquelle on va mettre fin à ce qu'on a dit auparavant, la cuisine du mélange, sucré-salé. C'est peut-être bon au palais, mais ça ne se pense pas. On ne peut penser que des oppositions. C'est le moment où on va mettre fin à ce qui était la pratique, la cuisine du tiède. Manger plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Là encore, c'est peut-être bon, mais ça ne se pense pas. On pense mieux des oppositions binaires. C'est le moment où on va mettre en place le repas ternaire que l'on connaît. Entrée, plat principal et dessert. C'est-à-dire tout simplement se donner la moyen de structurer la table pour pouvoir structurer le palais et structurer l'esprit. C'est le moment où on va donner comme consigne à ce qui deviendront les hussards noirs de la République, les enseignants, d'apprendre non plus seulement à lire. Vous savez qu'avant la Révolution française, l'école apprenait seulement à lire, pas à écrire. L'écriture était réservée à une minorité. Le peuple avait besoin de savoir lire les ordres, il n'avait pas en nom donné. Donc il n'avait pas besoin de savoir écrire. Donc les nouveaux maîtres doivent savoir effectivement enseigner, lire et écrire, compter et différencier les savoirs. Le sucré, le salé, l'acide, etc. Malheureusement, la Révolution française va mal tourner. Et la Révolution française, qui avait, durant les premières années, jusqu'en 1793 en fait, essayé d'imaginer ce que pouvait être une table non seulement suffisante pour tout le monde, mais bonne à penser. C'est-à-dire, en fondant le bon citoyen, va renouer avec ce qu'il y avait de pire sous la monarchie. Et va arriver effectivement à une table, là encore, reposant sur le séparatisme alimentaire. Très simplement, un événement historique, mais qui a été considérable, qu'on a presque aujourd'hui oublié. C'est un phénomène qui commence sous la monarchie absolue et qui se poursuit sous la République, sous l'Empire. C'est l'arrachage systématique des châtaignes. Parce qu'on prouve dans les textes de l'époque, alors là, il y a des dizaines d'ouvrages, la châtaigne, ça entretient la fainéantise. Parce qu'il n'y a pas besoin de se tuer au boulot pour pouvoir manger. Et on appelle d'ailleurs la châtaigne le pain de bois. On dit aussi la châtaigne, ça remet en cause la place des hommes dans la société. Le machisme. Pourquoi ? Parce qu'une femme, un vieillard, un enfant peut tout aussi bien ramasser, préparer les châtaignes. Et puis on nous dit, la châtaigne, c'est un aliment révolutionnaire. Puisque les gens n'ayant plus besoin de perdre leur vie à travailler, ont le temps pour pouvoir se rassembler, discuter, faire de la politique et la révolution. Donc on va avoir ce programme d'arrachage systématique des châtaigniers, avec des résistances hein, très très importantes de la population. Et on va imposer à la place de la châtaigne le pain. Le pain noir, bien sûr, pour le peuple, et le pain blanc pour l'élite. Et ensuite, le peuple, oubliant d'où il venait, c'est-à-dire de l'âge d'or de la châtaigne, se mettra à revendiquer l'accès au pain blanc aussi. Le 19e siècle, ça a été, on parle souvent du 19e siècle, comme l'art de la grande gastronomie. Oui, c'est vrai, pour la bonne société bourgeoise. Mais pour l'immense majorité des Français, c'est la période des ersatz alimentaires. C'est la période où nos scientifiques, nos médecins, cherchent à nourrir le peuple avec tous les déchets possibles, et notamment les os. Et on s'imagine effectivement inventer une alimentation totalement, totalement artificielle, mais apportant simplement les nutriments nécessaires. Je vais reproduire les travaux des différentes académies et qui montrent qu'effectivement, à quelques exceptions, l'implication de nos scientifiques et notamment de nos médecins dans cette invention d'une malbouffe avant avant son heure. Pour conclure, je saute plein de choses. Je dirais que l'alimentation me semble caractérisée par quelques paradoxes. Premier paradoxe, il me semble que l'alimentation des pays les plus pauvres sur le plan économique est l'alimentation la plus riche sur le plan symbolique, sur le plan des rituels. Et que l'alimentation des pays les plus riches sur le plan économique est l'alimentation la plus pauvre sur le plan culturel, symbolique, rituel. Deuxième interrogation, je suis convaincu qu'on ne réussira pas ce qu'on nomme la transition écologique. L'alimentation, l'agriculture aujourd'hui, c'est le tiers des émissions de CO2. Si on voulait manger écologiquement responsable, il faudrait en moyenne, pour un Français, réduire par 6 les émissions de CO2 liées à notre alimentation. Eh bien, je suis convaincu qu'on ne réussira pas cette transition écologique si on ne marie pas les politiques agricoles nécessaires avec des politiques alimentaires. Si on ne renoue pas avec ce qu'ont été les politiques alimentaires. Je donne un exemple tout simple pour me faire comprendre. La grande chance que l'on a en France, c'est que un peu plus d'un repas sur deux se fait dans le cadre de ce qu'on appelle la restauration sociale. Restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration hospitalière, pénitentiaire, militaire, etc. Si on voulait, si on avait la volonté politique, on pourrait faire effectivement de ce secteur social un sacré levier pour faciliter l'adaptation de l'agriculture. Il suffirait de modifier le code des marchés publics, les cahiers des charges. Moi, je travaille avec une cinquantaine de municipalités qui ont choisi de revenir en régime municipal pour leur restauration scolaire. Si on revient en régime municipal, ce n'est pas pour faire la même chose que les géants de la restauration collective. C'est pour, à minima, faire une alimentation faite sur place, servie à table. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, vers une alimentation moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. C'est-à-dire, si on doit avoir des petits pois sur la carte de la cantine, au lieu d'avoir toujours la même variété toute l'année, il faut avoir 4 ou 5 variétés différentes. Ça peut être l'ébauche de ce que pourraient être effectivement ces politiques alimentaires. Je disais, nécessité de resymboliser notre alimentation. Nous sommes sans doute nombreux ici à manger une bûche à Noël. Mais souvent, nous avons oublié pourquoi nous mangeons une bûche à Noël. En fait, c'est en souvenir de cette très longue pratique multiséculaire durant lequel, aux équinoxes, on brûlait une bûche de bois dans l'arbre. Et si ce bois choisi suffisamment vert et un peu humidifié durait jusqu'au matin, c'était une promesse de fécondité pour la terre et pour les femmes. Mais si nous ne savons plus pourquoi nous mangeons telle ou telle chose, la seule façon de faire la fête, c'est de faire romance. C'est de chercher les aliments les plus chers, d'être dans le gaspillage. Donc, resymboliser, re-ritualiser la table, c'est aussi une façon de remplacer les nutriments excédentaires. Aujourd'hui, on n'a plus peur de manquer chez nous. On a peur de trop ou de mal manger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler l'angoisse de l'alimentation. C'est sans doute d'ailleurs une angoisse anthropologique. Manger, c'est faire du moi avec de l'autre. Cette incorporation, c'est toujours risqué sur le plan bactériologique, où ça, globalement, ça relativement réglé. Et la grande peur, c'est de se métamorphoser sur le plan anthropologique, culturel. Donc on aura toujours un rapport sans doute angoissé à l'autre. Et la seule façon de résoudre cette angoisse, c'est sans doute de la gérer sur le plan culturel, sur le plan symbolique, sur le plan des rituels. Voilà, je me tais pour laisser largement de temps au débat.
procéder aux questions. Vous présenter en même temps, ça permet de...
Philippe Jalado, Université de Poitiers. Juste une petite question par rapport à l'absence de port chez les musulmans. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'histoire? Et puis, deuxièmement, sur les grandes tendances que l'on trouve aujourd'hui, comme par exemple de ne plus manger de viande. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots?
C'est-à-dire que... Oui, bonjour, Florent Blin, animateur culturel. J'aurais voulu savoir quel regard vous portiez sur une alimentation qu'on pourrait qualifier de mondialisée. Est-ce que c'est plutôt, selon vous, un enrichissement de savoir si on peut manger libanais, chinois, vietnamien tous les jours de la semaine, ou si c'est plutôt un appauvrissement?
C'est que lorsqu'on pense manger chinois ou hindou, en réalité, on n'accède qu'à un artefact. Et non pas véritablement à ce qu'est la table chinoise et ce qu'est la table hindoue. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour la table chinoise, la grande question, c'est la dimension symbolique. Non pas le fait de manger du riz avec des baguettes. Pour la question de la table hindoue, le grand enjeu, c'est de savoir qui a préparé l'alimentation. Puisqu'effectivement, on reste dans une tradition de civilisation inégalitaire, reposant sur des castes, et on ne peut manger qu'un aliment qui a été préparé par un membre d'une caste au moins supérieur à la sienne. Alors, il y a des subterfuges, hein. C'est-à-dire que le grouillot peut faire l'essentiel du plat, il suffira de rajouter une petite épice par-dessus ou de brasser un peu pour le purifier. Donc aujourd'hui, je dirais que cette globalisation de la table m'apparaît un peu comme un miroir aux amis. En revanche, moi je suis convaincu qu'il faut d'abord maîtriser sa propre culture pour pouvoir s'ouvrir sur la culture. Et donc, je trouve que là, l'éducation nationale, par exemple, passe à côté de ce que pourrait être un enjeu en termes, effectivement, de politiques alimentaires. J'aurais envie de dire, relisons ce que disaient les grands révolutionnaires de 89-93. Il est évident, en même temps, que cette ouverture n'est que positive dans la mesure où elle résulterait d'un métissage. C'est-à-dire que aujourd'hui, le plat, par exemple, c'est un ami suisse qui me disait ça, le plat, un des plats les plus consommés en Suisse, c'est le couscous. Mais qui a été effectivement digéré dans la culture. Il ne s'agit pas de revenir à une sorte de pureté imaginaire. Donc le métissage culturel est une chose très saine. Je vais répondre peut-être par la bande, mais il y a encore quelques décennies, on opposait le porc ouvrier, le lapin paysan et le veau bourgeois. Porc ouvrier, lapin paysan et le veau bourgeois. C'est-à-dire que chaque milieu social avait sa propre table, avec la même authenticité, la même fierté. Aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde. Oui, mais c'est pas le même. Pour une immense majorité, c'est de la volaille de batterie. Et pour une petite minorité, c'est des poulets fermiers, bio, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tend à transformer les cultures populaires alimentaires en sous-produits de la culture alimentaire. Plutôt que de défendre ce qu'on pourrait appeler leur autochtonie, leur autonomie. Donc je crois qu'effectivement il y a des mutations qui sont importantes. Donc nécessité d'une ouverture sur les tables, tout en défendant effectivement ce qui permet, notamment au milieu populaire, de développer leur propre culture. Et de ne pas tomber dans des ersatz simplement commerciaux. C'est-à-dire, le grand danger, c'est de gadgetiser la table, y compris sa propre table. De réduire effectivement une culture à un produit.
Bonjour, Cyril Lebas, je suis anthropologue de l'alimentation et cuisinier et militant en fait pour. Sur le plan militant, je parle beaucoup sur les questions environnementales. Et ce que je voulais juste vous rapporter, enfin, pour mettre un peu une note d'espoir, il se trouve en France, il y a une association nationale qui s'appelle l'ANEL, c'est l'association nationale pour l'éducation au goût des jeunes, dont un des principes, c'est d'introduire l'éducation au goût dans l'éducation nationale comme matière scolaire. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le temps la pause méridienne est tout à fait un temps qui est oublié du point de vue pédagogique et qu'il va falloir, notamment quand vous parlez des politiques alimentaires, je rajouterai que c'est les seuls qui se mangent, donc il faut vraiment qu'on s'en occupe. Réintroduire la pause méridienne comme un moment d'apaisement d'éducation au sens noble du terme, c'est-à-dire de réapprentissage, de sociabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on mange, tient beaucoup à comment on se représente. Et ce qu'il ne faut pas oublier malheureusement, c'est que 80% de l'éducation alimentaire, des messages alimentaires, viennent d'une seule source qui est l'agro-industrie. Donc les parents et l'école sont minoritaires dans les apports. Ça veut bien dire que de quoi on parle, parce que les gens souffrent tous de la même chose, mais en même temps, dans ce paradoxe, les parents ont compris le système. Et je vais en terminer en disant que le plus gros problème en ce moment, je travaille avec un professeur sur les alternatives protéiniques, et notamment la spiruline, qui m'a donné un propos de l'argent là-dessus, c'est vraiment ce qu'on appelle l'acceptabilité, c'est-à-dire comment. C'est-à-dire à plugger, comment faire revenir l'être humain à sa condition biologique sans lui faire peur et lui faire perdre tout le chemin qu'il a fait sur le symbolique. C'est-à-dire qu'il faut quasiment, j'allais dire, travailler sur des manipulations complexes, au moins aussi puissantes que ce que l'industrie a fait sur ses intermédiaires.
Évidemment, par rapport à l'évolution aussi bien d'un certain nombre de normes juridiques que de techniques et de sciences. Concernant les normes juridiques, je prendrai un seul exemple. Si je vous parle d'arômes naturels, chacun comprend spontanément arômes tirés de la nature. Eh bien, vous auriez eu raison il y a encore une quinzaine d'années, la date de changement de réglementation en tête, mais aujourd'hui, ça veut dire arôme qui a son équivalent dans la nature. Arôme naturel, ça peut être totalement industriel, totalement chimique. On a beaucoup parlé, passé un temps, des dangers en termes, principalement, je dirais, de type d'agriculture, concernant les OGM. En réalité, nous sommes à la veille, mais ça a déjà commencé, d'OGM de deuxième et de troisième génération, avec ce qu'on appelle la mutagénèse et la cisgénèse. La mutagénèse, ça consiste à provoquer des mutations génétiques par des chocs chimiques imposés sur les semences et les plantes, afin de fabriquer des souches résistantes, par exemple, aux herbicides. Et ces mutations ne rentrent pas dans le cadre juridique des OGM, et donc ne sont pas soumises à contrôle. Et aujourd'hui, la mutagénèse, ça concerne 1700 espèces et 3000 variétés commerciales. Ce sont en fait des OGM cachés. Et la cisgénèse, c'est le fait de transférer des gènes entre organismes qui pourraient être croisés naturellement. C'est là où, effectivement, il ne s'agit plus d'OGM classiques. Mais ça nous donne quoi ? Bon, on a déjà plus d'un millier de produits de ce type. On a des pommes cisgéniques qui ont été modifiées pour ne plus brunir une fois qu'elles sont épluchées. On a également des melons cisgéniques qui ont été modifiés pour avoir une maturité retardée, c'est-à-dire pour pouvoir être conservés plus longtemps sur les étals. Ce qui montre très bien que l'évolution de la science et des techniques, mais comment le cadre juridique évolue au fur et à mesure pour permettre effectivement à ces biotechnologies de pouvoir se développer. Je dirais que l'un des grands débats aujourd'hui, c'est vraiment de savoir si on mise sur les biotechnologies et des fermes géantes. On a beaucoup parlé en France de la ferme des 1000 vaches, mais c'est de l'enfantillage hein, par rapport à ce qui est déjà dans les cartons. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers la perspective, je dirais l'illusion, de nourrir 8-9 milliards d'humains avec quelques centaines de milliers d'agro-managers, ou est-ce qu'il ne vaut pas plutôt miser sur 1 milliard de petits producteurs ? Et je dirais qu'on parle beaucoup aujourd'hui de préservation de la diversité alimentaire, et c'est vrai qu'un certain nombre d'États investissent pour faire des sortes de musées où l'on conserve, je dirais, les souches. Mais je dirais que la diversité, elle doit être dans les champs. Elle doit être dans nos assiettes. Et notamment face aux perspectives de dégradation du climat. Je dirais que plus, effectivement, on aura une grande diversité cultivée, plus nous aurons une résilience importante. C'est-à-dire que si nous allons, effectivement, simplement sur quelques variétés, qu'il s'agisse de variétés végétales ou animales, eh bien, nous serons dans une plus grande faiblesse, une plus grande fragilité. Et je rejoins tout à fait ce que disait l'anthropologue de l'alimentation. Je dirais qu'il y a vraiment urgence à ce que l'éducation nationale se saisisse de cette éducation au haut. Il y a des programmes qui avaient été élaborés par le mouvement Slow Food en Italie et adoptés par plusieurs régions italiennes. Et ce qu'on avait pu constater, ce n'était pas l'objectif en soi, hein, mais ce qu'on avait pu constater, c'est que le fait de restructurer la table, de réapprendre à manger, eh bien, avait des incidences, y compris sur le comportement des gamins dans les cours de récréation et dans les cours. Moi, j'avais fait une étude avec une association de diététiciens critiques sur la durée des repas dans la restauration au collège sous forme de cafétéria. On était, j'ai plus le chiffre exact, hein, mais on était entre un quart d'heure et 20 minutes. Entre un quart d'heure et 20 minutes, vous avez le temps de faire le plein de nutriments, comme on fait le plein d'essence avec sa voiture. Mais l'essentiel de l'alimentation, qui ne concerne pas le corps biologique, est complètement évacué. Et on voit très bien aujourd'hui dans le monde de l'entreprise comment on assiste au retour de la gamelle. Comment, effectivement, pour plein de raisons bonnes et mauvaises, les gens ne souhaitent plus, dit-on, participer à des formes de restauration collective. Et ce retour à la gamelle, eh bien, c'est bien sûr un appauvrissement social extraordinaire. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra sortir de la crise, mais au-delà de l'alimentation, qu'en renouant avec la construction des communs. Et il est évident que la table est un des lieux où les communs se sont toujours inventés. Et aller vers une individualisation de l'alimentation, c'est non seulement frustrant, on voit très bien aujourd'hui se développer non seulement un certain nombre de maladies, boulimie, anorexie, orthorexie, mais c'est, je dirais, la pire des choses en matière de transition.
Merci. Bon, je viens de Buxerolles, ancien professeur et aujourd'hui jardinier. Je me demande si on peut alimenter les gens en leur donnant conscience de goûts variés avec des aliments qui ont voyagé. Et pour aller dans le sens politique de votre réflexion, ne pensez-vous pas qu'il y aura de toute façon une grosse différence entre l'alimentation des villes et l'alimentation des campagnes ? Merci.
Juste une remarque en vous écoutant, après avoir créé mon sophage. Que je comprends un peu mieux le gaspillage alimentaire en France quand l'ancien président du Québec pour retenir le président sur l'histoire de la viande. Je trouve intéressant la question tout à l'heure du monsieur qui disait est-ce qu'il faudrait arrêter de manger de la viande. Mais ça montre un peu la question par l'excès, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'arrêter la viande. Moi, j'aime bien les petits lardons des fois dans les lentilles. Entre arrêter la viande et en manger trop, actuellement on est à 92 kg à peu près d'impact bactéries en France par an, on est à 120-130 kg en Australie, en Argentine, mais on est à 5 kg en Inde. Et la préoccupation actuelle par exemple, c'est en Chine, où ils étaient à 15 kg de viande par an par terre par chinois. Il y a 20 ans, grosso modo, ils sont à 45 kg. Ils ont triplé. Et actuellement dans le monde, 9 cochons sur 10 sont élevés en Chine. Le problème, c'est que les animaux maintenant, et c'est là où il y a un dérapage qui paraît peut-être dans le livre que j'ai pas lu, c'est qu'avant, les animaux domestiques mangeaient une nourriture que les humains ne pouvaient pas manger directement,
l'herbe dans les prairies, etc. Alors que maintenant, on leur fait manger la moitié des céréales produites dans le monde. Au lieu de manger directement nous le maïs, on le fait manger par des animaux. Et c'est là où il y a un gaspillage énorme d'énergie et un enjeu majeur par rapport aux ressources. Sur l'histoire de goût, l'intervention de Yassir, oui, les écoles peuvent faire quelque chose, mais je rappelle quand même que le goût, il est dans le lait des mères, et que si les mamans s'alimentent avec un panel très varié d'alimentation, c'est transmis au pitchoun et il aura plus d'aptitude à manger des choses différentes. Donc l'école, elle ne peut pas tout faire non plus, il ne faut pas dédouaner la responsabilité des parents, et la pub, effectivement, est un pouvoir dont il est difficile de les opposer. Et pour finir, il y a un personnage un peu local ici, qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin, qui a élaboré un peu le concept de la France en haut et de la France en bas. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure sur les alimentations pour les nobles ou pour la France d'en bas, en général, les oiseaux sont plutôt mangés par les notables, alors que le cochon, par exemple, qui n'aurait pas de cou et qui regarde que la terre, est considéré comme un animal qui est plutôt voué à une consommation pour ceux qui regardent que juste devant eux et qui ne regardent pas un peu le ciel, etc. Et on retrouve ça dans l'alimentation végétale aussi, où les tubercules, ce qui pousse dans la terre, a en général moins de noblesse que ce qui pousse dans les arbres, dans les fruits, c'est-à-dire les fruits.
Moi, ça recoupait un peu avec la réaction sur les villes et la campagne. Moi, j'ai un restaurant Jacques Les Châteaux, donc avec des potagers, etc. Et on se rend compte qu'on a un pays de cocagne, que c'est facile. Et on dialogue beaucoup avec des restaurateurs urbains ou même d'autres pays. Il y a deux éléments qui sont importants aussi. C'est le poids de la restauration domicile ou hors domicile. Parce que vous avez beaucoup parlé de banquet, mais pas tellement de foyer. Et l'apprentissage, il se fait souvent dans la cuisine aussi. Et quand on a des parents qui ne cuisinent pas et qu'on ne mange pas à table chez soi, ça change tout. Enfin, ça distend la relation avec la nourriture. Et surtout quand on ne la voit pas pousser. Quel est votre point de vue? Et ce qui m'intéresserait aussi, puisque vous avez l'air spécialiste de la viande, c'est votre point de vue sur le bien-être animal dont on commence à parler, les abattoirs. Et on dit beaucoup aussi dans la restauration que ça se ressent dans le goût de la viande. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, ce côté un peu sacrificiel? Et il y a aussi une omerta sur ces questions-là, on ne parle jamais du sang, enfin on ne le voit pas.
Tout d'abord, je commençais par la dernière question. La question de la souffrance animale est une question essentielle. Je crois qu'il y a deux façons de l'aborder. La première façon, enfin il y a trois. La première façon, c'est effectivement celle de l'industrie et celle du déni. Mais si on ne veut pas être dans le déni, si on considère qu'il y a un lien entre la domination des humains sur les autres animaux et la domination des humains entre eux, donc il faut chercher effectivement des correctifs à la souffrance animale. C'est là où effectivement il y a deux façons. La première, c'est la façon très en vogue aujourd'hui, celle, c'était cité à plusieurs reprises, du mouvement végan, qui prend effectivement beaucoup d'importance, qui me semble pas, je dirais, aller dans le bon sens. Politiquement, notamment. Puis la deuxième façon, que j'aime beaucoup, c'est celle, par exemple, d'une sociologue, Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher a développé toute une analyse en essayant de faire fonctionner la logique du don et du contre-don dans le cadre des rapports entre, je dirais, éleveurs, animaux, mangeurs et animaux. Et je résume, je caricature à l'outrance sa pensée. Mais elle nous dit qu'en échange effectivement du don de la viande que nous font les animaux, il y a un contre-don à avoir, c'est celui d'assurer les conditions d'élevage les meilleures possibles. Et je crois que c'est en se situant dans ce cadre-là, tout en allant, comme c'était évoqué par votre voisin derrière, vers une réduction importante de la consommation de viande, que l'on peut effectivement avoir le plus de chances de tenir les deux coups et aller vers une alimentation qui soit respectueuse du monde animal et qui apporte à la fois les nutriments, le plaisir, le partage nécessaire. sur l'opposition ville-campagne. Je dirais d'abord de façon très très provocante. Encore, c'est une provocation pensée, mais c'est quelque chose dont on pense peu aujourd'hui. Moi, je reste encore sur les vieilles positions d'essayer de remettre, n'oubliez pas, hein, en cause l'opposition ville-campagne. Des grands débats fin du 19e siècle et début du 20e siècle. La ville, l'urbain, c'est aussi venu avec le capitalisme et le productivisme. Et j'assume complètement mon anticapitalisme et mon antiproductivisme. Donc repenser l'opposition ville-campagne autrement, plutôt effectivement par des territoires qui seraient, je dirais, avec une population plus harmonieusement dispersée. Mais d'une manière générale, oui, bien sûr, cette opposition ville-campagne en matière d'alimentation, elle reste importante. Il n'y a pas qu'en matière d'alimentation. Tout à l'heure, j'avais dit que globalement, on avait transformé les cultures sociales, populaires, en sous-produits de la culture dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de différence, sinon sur le plan économique et de la qualité du produit, entre l'alimentation d'un ouvrier et celle, effectivement, d'un bourgeois. En revanche, les différences régionales restent quelque chose d'important. Et ces différences régionales, bien, recoupent en partie l'opposition ville-campagne. Oui, sur la question du goût aussi. Bien sûr, je dirais qu'il n'y a pas seulement l'éducation au goût. Alors, il y a des travaux, je suis très sceptique sur la possibilité de chiffrer de manière aussi précise. Mais on nous dit que l'aptitude à différencier les saveurs, en cas d'une analyse sensorielle, varierait à peu près de 1 à 6. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient 600 fois plus d'aptitude. C'est vrai, pour avoir partagé certains repas avec quelques nez, enfin, quelques personnes réputées, ça vous donne des complexes, hein, parce que vous mangez une salade, ils trouvent un petit bout d'oignon, ils vont vous en parler pendant une demi-heure. De la variété de l'oignon, de la qualité du sol et du soleil. Pour vous, c'est de l'oignon. Hein. Donc, soit vous vous dites, là, il est en train vraiment de me raconter n'importe quoi, il n'y a pas de raison de penser ça. Donc oui, il y a des différences extraordinaires. On sait qu'il y a trois facteurs. Premier facteur, il y a un facteur, on pourrait dire biologique ou morphologique. Nous ne sommes sans doute pas tous formatés de la même façon au départ pour apprécier les flaveurs. Deuxième facteur, quelqu'un en a parlé, c'est ce qu'on appelle l'encodage primaire, c'est-à-dire ce qui se joue durant les premiers mois de l'existence. Et c'est vrai qu'un enfant nourri au sein va recevoir à chaque tétée des milliers de flaveurs différentes en fonction du rythme hormonal de sa mère, en fonction de sa propre alimentation. Et qu'un enfant nourri avec du lait industriel, nommé maternisé, va recevoir au mieux que quelques flaveurs. Mais il y a quand même le troisième facteur. Le troisième facteur, c'est celui de l'éducation au goût. Et moi, pour le faire vraiment de façon tout à fait en bricolage avec mes étudiants, en leur disant, je vous ai pour 3 ans, en histoire, sociologie, psychanalyse de l'alimentation, ceux que ça intéresse, eh ben, on va effectivement essayer de développer notre goût. Vous savez, les petits jeux simples, hein, où au départ, il y a des mallettes qu'on peut acheter, mais on peut faire ça de façon tout à fait en amateurisme. Vous mettez dans des petits flacons de la moutarde, du vinaigre, lorsque vous êtes capable de différencier le moutarde de la vinaigre, jusque-là ça va assez vite, hein, et bien on passe à 2 ou 3 vinaigres différents, etc. Et bien on fait des gammes, comme un musicien fait des gammes. Et je peux vous assurer que très très vite, effectivement, on a l'aptitude à différencier, c'est-à-dire déjà à mettre des mots sur les sensations. Et donc, on peut avoir cet enrichissement. On peut avoir cet enrichissement malgré le formatage, l'encodage initial, et malgré peut-être effectivement une inégalité biologique. Voilà, je crois que j'ai à peu près.
Dernière question, peut-être ?
Quelque chose. Bon, parce que j'ai passé sur plein de... En fait, dans mon ouvrage, je l'ai composé à la façon d'un menu ancien, avec un certain nombre de services, mais qui renvoie tout simplement un plan chronologique. Et j'ai passé sur les tables féodales, etc. Et c'est vrai que la table clérico-féodale renvoie à la hiérarchisation des produits que vous avez évoqués. C'est-à-dire ce qui est le plus noble, c'est ce qui vole. Parce que c'est le plus proche de Dieu. Et notamment, on va manger des oiseaux qui volent le plus haut. La poule étant ce qu'il y a de moins intéressant. Ensuite, on va manger ce qui court. Type le lapin. C'est intéressant parce qu'ils sautent un peu, lui, en plus. Hein. Ensuite, on mangera, on mangera ce qui pousse sur le sol. Et puis, on aura effectivement ce qu'on appelle les racines. Donc, les racines, c'est du bras et de l'enfer. Hein. Donc, c'était l'alimentation pour les vilains. Donc, oui, effectivement, nous sommes aussi encore tributaires de cette représentation-là. Et il sera sans doute difficile de passer d'une alimentation aujourd'hui beaucoup trop carnée. Vous avez raison, il n'y a pas de limite objective. Hein. C'est-à-dire que si on laisse les tendances se faire, on mangera demain comme les Australiens. Donc, il est évident qu'on ne pourra pas remettre en cause cette surconsommation carnée si on ne remet pas en cause les représentations qui sont les.
Comme Rabbi Jamila, le porteur du projet cuisinier cooker. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Et je voulais demander quelques questions. Vous avez parlé tout à l'heure de crise hygiénique et de l'OGM qui sont commercialisés dans notre groupe. Quels seraient leurs effets sur la santé? Et quel conseil pourriez-vous donner aux consommateurs qui mangent beaucoup de fruits et légumes traités qui sont en vente en général dans les grandes surfaces pour la protection de leur santé? Et qu'est-ce que c'est les nano-aliments? Est-ce qu'ils sont déjà en vente? Et quels seraient aussi donc leurs effets sur la santé? Merci.
Bonjour. Alors, vous parlez d'enrichissement justement de l'alimentation, mais je crois que l'Union européenne publie un catalogue des semences cultivables que les agriculteurs doivent s'y conformer. Et justement, c'est pas un appauvrissement des agriculteurs qui doivent respecter cette alimentation.
Je crois qu'il y a deux obstacles aujourd'hui à faire sauter sur le plan juridique si on veut développer effectivement des véritables alternatives. Le premier obstacle, c'est ce fameux inventaire que vous citez des variétés autorisées. Je dirais que pour pouvoir être inscrit à cet inventaire officiel, il faut que les variétés soient totalement stabilisées. C'est-à-dire qu'on ait systématiquement toujours le même résultat. Donc une sorte de recherche d'une sécurité maximum. On passe presque la sécurité à un esprit un peu sécuritaire. Je dirais que c'est le contraire de ce qu'est une agriculture biologique. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui de repenser ce que pourrait être effectivement un catalogue différent. Alors, il y a beaucoup d'associations, hein, type Manga, Cocopelli, qui travaillent dans cette direction. Remettre en cause cet inventaire qui a été pensé pour l'industrie. Deuxième chose qu'il faudrait remettre en cause, c'est la fameuse méthode HACCP qui a été au départ inventée pour les premiers voyages spatiaux et qui repose effectivement sur une logique là aussi totalement hygiéniste, sécuritaire, interdisant par exemple de remettre dans le frigo la plaquette de beurre qui vient de sortir. Je dirais que cette fameuse méthode HACCP, donc mise en point par la NASA pour les premiers voyages Apollo, est sans doute tout à fait adaptée à l'industrie alimentaire, lorsque vous avez des cuisines qui fabriquent des dizaines de milliers de repas, mais complètement inadaptée, j'allais dire, au restaurant de quartier. Et il vaudrait mieux effectivement avoir deux systèmes juridiques adapté à des logiques économiques et industrielles différentes.
Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une sorte de mensonge social. Tout le monde sait que l'immense majorité des restaurants ne respectent pas, parce que ce n'est pas respectable. Cette fameuse marche en avant, ni sur le plan horizontal, ni effectivement au niveau de la chronologie. Donc oui, il faut remettre en cause ces éléments. Sur la question de la santé, j'aurais envie de répondre de façon un peu caricaturale deux choses. Premièrement, c'est que aussi bien le combat que je mène depuis effectivement 30 ans dans le champ de l'alimentation, que mon dernier ouvrage, qui est quand même plus culturel que militant, ne part pas avant tout d'une recherche, je dirais, de la santé pour les individus, déjà parce que j'ai pas les compétences. C'est-à-dire, mon combat contre les OGM, je l'ai fondé ailleurs. Je l'ai fondé principalement sur le type d'agriculture qui va avec. C'est-à-dire la question de la liberté des semences. C'est-à-dire, doit-on aller vers une agriculture paysanne ou doit-on, au contraire, aller effectivement vers un développement de la grande industrie. En revanche, j'écoute ce que peuvent dire un certain nombre de spécialistes, scientifiques et autres, et qui disent, à minima, nous lançons effectivement des OGM première génération, deuxième et troisième génération, sans s'être donné le temps de l'expérimentation. Alors, vous parliez des nano-aliments. Les nano-aliments, c'est une des branches de ce qu'on appelle la révolution NBIC. Donc, les États-Unis ont réuni au moment, je crois, à peu près de l'an 2000, plus de 2000 scientifiques, en leur posant la question quelles vont être les grandes révolutions industrielles au XXIe siècle. La réponse était de dire qu'il ne va pas y avoir probablement une découverte majeure, mais ce qui va être révolutionnaire, c'est le fait d'hybrider quatre domaines. Donc la révolution NBIC, N pour nanotechnologie, B pour bactériologie, I pour science de l'information, informatique, et C pour science cognitive. Donc les nanoaliments, ce sont des particules de l'ordre du millionième de millimètre. Et on a deux utilisations possibles. Une, effectivement, concernant les contenants. Donc les boîtes et autres qui peuvent avoir un certain nombre de capacités. Deuxième utilisation, c'est concernant les produits alimentaires eux-mêmes. Pour donner un exemple, on utilise des nanocapsules aujourd'hui pour le café. C'est-à-dire vous prenez la variété de plantes ayant le rendement le plus important, mais ayant une absence de goût ou un mauvais goût. Et vous allez coller ces fameux nanocapsules sur les grains de café. Et lorsqu'on verse de l'eau bouillante, ça fait exploser ces nanocapsules et ça libère des arômes et ça vous donne le sentiment d'avoir un café extraordinaire. Et donc là encore, je dirais, il peut y avoir débat. On avait publié avec le comité français, enfin non, c'était sur une... Deuxième élément, je vais plus loin. Il y a un autre élément dont on parle peu, c'est la ionisation des aliments. La ionisation des aliments, c'est le terme, j'allais dire, soft, pour qualifier ce qui est en fait une irradiation des aliments. Cette irradiation des aliments est quelque chose de très très développé. On a créé les outils juridiques, là encore, pour pouvoir le généraliser. L'objectif, c'est de pouvoir conserver, là aussi sur le marché, plus longtemps, un certain nombre de produits. Donc on avait publié avec le comité français contre l'irradiation des aliments en ouvrage il y a quelques années, où d'un côté on avait des scientifiques, des médecins, qui disaient sur le plan de la santé humaine, il y a un certain nombre de doutes. Et puis il y avait d'autres textes, dont le mien, j'avais préfacé en fait aussi cet ouvrage, où je disais, mais de toute façon, cette irradiation des aliments n'a qu'une utilité. C'est dans le cadre de la multiplication du commerce mondial. C'est ce qui permet effectivement de généraliser les importations et les exportations. Donc, même s'il n'y avait pas de danger sur le plan de la santé physique, eh bien, je dirais, il y a des conséquences négatives sur ce qu'on pourrait appeler le plan de la santé sociale. c'est-à-dire effectivement le type de société que l'on veut. Donc la ionisation, l'irradiation des aliments, comme les nanoaliments, ça va avec l'industrialisation en France. Or, au-delà même du plaisir que je peux avoir à manger, je suis convaincu qu'on ne pourra pas demain nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains avec le système productiviste qui est le même. Je voudrais simplement vous rappeler 2-3 chiffres. Premier chiffre, alors ça c'est le versant mauvaise nouvelle. Je terminerai plutôt sur une bonne nouvelle. Sur le versant mauvaise nouvelle, on sait que cette année, le 8 août, nous avons dépassé les capacités de régénération de la planète. Tout ce qui a été produit et consommé après le 8 août l'a été au détriment des générations futures. Mais le 8 août, c'est une moyenne mondiale. Et comme toute moyenne, ça cache plus que ça ne révèle. Et donc la situation est très différente d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, nous dépassons les capacités de régénération de la planète fin février. En Allemagne, mi-mars. En France, début avril. Tout ce que nous consommons et produisons après début avril l'est au détriment des générations futures ou des plus pauvres. Alors on peut prendre un autre chiffre. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, la Terre peut aller jusqu'à 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Nous en sommes aujourd'hui à 6,8 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Plus du double de ce que la Terre peut supporter. Donc il y a nécessité à repenser notre système productif, nos modes de vie. Et ça concerne bien sûr l'alimentation. Donc ça c'est plutôt le versant négatif. Il y a urgence à agir. Et il y a un versant positif. Il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ce que cesse de nous rappeler l'ONU. L'ONU nous dit qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la famine. 30 milliards de dollars et plus personne ne crève de faim. L'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars par an, toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous, inquiétez-vous. Ces 30 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Oui, mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards d'euros. Le marché publicitaire mondial, 750 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le PIC, le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. 10% du PIB mondial. 10%. À comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et le gaspillage alimentaire, nord-américain, États-Unis et Canada, le gaspillage alimentaire, 100 milliards de dollars. Trois fois ce qui serait nécessaire pour résoudre la question de la faim. Donc on le voit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix de société. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pourquoi? Et je dirais que ma bonne nouvelle, elle a ce fondement économique. Objectif, mais elle a aussi un fondement culturel. Moi, je suis très à l'écoute de tous les nouveaux gros mots qui s'inventent aujourd'hui à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique latine, on parle du buen vivir, du bien vivre. Et Alberto Acosta, l'un des pères du mouvement du bien vivre, ancien président du Conseil constitutionnel de l'Équateur, nous dit que le bien vivre, ce n'est pas le bien-être, au sens de la société d'hyperconsommation. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. En Inde, on parle de plus plein, plus vivre, bien vivre, autant de façons de dire que la solution, elle n'est pas dans le toujours plus. Et puis je crois que ce qui donne de l'espoir, ce que j'avais essayé de montrer dans mon avant-dernier livre, c'est que, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il existe aujourd'hui, non là, raser cette question à travers les modes de vie régionaux, populaires, l'opposition campagne-ville, il existe des façons de vivre dominées, mais qu'on ne voit plus.
Je vais utiliser une formule un peu provocante pour me faire comprendre. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le grand publicitaire, avait dit s'il y a 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Moi, j'ai 57 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe. Mais c'est pas avant tout parce que j'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf qu'aujourd'hui, les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs. C'est-à-dire que nous acceptons trop la définition que les puissants ont de ce qu'on pourrait appeler le milieu populaire, les gens ordinaires, les gens du commun. Les 99%, comme diraient les individus. Une définition toujours en termes négatifs. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En éducation, le manque de culture. En politique, le manque de participation. En psychologie, le manque d'estime de soi. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais ça masque l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens ordinaires, nous ne sommes pas des riches auxquels manquerait simplement de l'argent. Nous avons une autre richesse. Et en fondant mes propres travaux sur des centaines de recherches de sociologues, d'économistes, de psychologues, ce que j'ai pu montrer, c'est que les gens ordinaires, on ne sait plus comment nommer, avant on disait le milieu populaire, non, le milieu populaire c'est l'autre, c'est celui qui est plus bas que nous. Mais c'est que les gens ordinaires ont un autre rapport au travail, ont un autre rapport à la consommation, ont un autre rapport à l'argent, ont un autre rapport au temps, ont un autre rapport à l'espace, ont un autre rapport au vieillissement, ont un autre rapport à la maladie, à la mort, donc à la vie. Je ne dis pas que ce soit parfait. Et membres des milieux populaires peuvent se conduire comme des salauds aussi. Mais il y a des potentialités extraordinaires. Et je crois qu'il faut prendre appui sur ces potentialités. Et à ce moment-là, quel que soit le champ, ça permet effectivement de renouer avec l'espoir. Le philosophe, il était philosophe d'une certaine façon, mais il était surtout poète, Rimbaud, au 19e siècle, disait qu'il fallait redevenir des voyants. Et pour lui, c'était tout un projet politique. Je crois qu'il y a la même urgence aujourd'hui. Rendre visible l'invisible. C'est-à-dire rendre visible les milieux populaires, ces autres modes de vie. Et rendre visibles les alternatives qui existent. C'est que si nous prenons conscience qu'il y a un déjà là, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de manger, par exemple, que les gens parfois choisissent le pire parce que c'est la solution, j'allais dire la moins coûteuse, non seulement financièrement, mais psychologiquement, socialement. Mais qu'en réalité, ça ne satisfait pas leur désir. C'est que si on mise effectivement sur ces potentialités, qu'à ce moment-là, on peut ne pas désister. Mais je parle vraiment concernant l'alimentation, comme d'autres thèmes, l'humanité est vraiment sur un chemin de crête. C'est-à-dire que ça peut déboucher sur le pire. Le pire étant effectivement de larguer toute une partie de la population planétaire. Et on peut avoir que des inquiétudes face à l'achat, on parle toujours de la Chine, mais il n'y a pas la Chine, de quantités énormes de terres, notamment en Afrique, pour faire face effectivement aux tragédies alimentaires qui se préparent. Mais le pire n'est pas sûr. Je dirais qu'il peut y avoir des chemins de traverse qui permettent effectivement non seulement d'apprendre à partager à 8 milliards d'humains, à 10 milliards d'humains bientôt, mais d'y trouver du plaisir. Je terminerai en disant que, encore en faisant une formule un peu provocante, mais cette société de gaspillage, cette société du toujours plus, cette société d'hyperconsommation, il faut le reconnaître, elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir. C'est une jouissance d'emprise. C'est le toujours plus de richesse économique, toujours plus de pouvoir sur la nature, sur les autres. Mais on ne pourra pas en finir avec cette jouissance d'avoir si nous n'avons pas la capacité à lui opposer une autre forme de jouissance. J'allais dire encore plus jouissive, un plus à jouir. Et la seule forme de jouissance qu'on puisse opposer à la jouissance d'avoir, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social, ce que les Grecs anciens appelaient un zoon politikon, un être politique.
c'est mettre la fabrique de l'humain au cœur de notre réflexion et de notre action, et notamment sur la question de l'alimentation, à travers la resymbolisation, la re-ritualisation, l'éducation au goût. Et à ce moment-là, effectivement, nous pouvons espérer être dans le plus à jour, dans le grand désir de vivre. Et étant dans le grand désir de vivre, nous avons effectivement beaucoup plus de chances de pouvoir y parvenir que si nous sommes dans un discours culpabilisé.
Merci. Et ce sera peut-être la conclusion. Voilà. Merci. Pour ceux qui souhaiteraient continuer la discussion avec Paul Ariès, il y a une signature donc au stand Gibert dans le salon de la foire. Voilà. Merci en tous les cas. Et rendez-vous, prochain rendez-vous pour Créativité Territoire, c'est les journées d'automne, les 19, 20 et 21 octobre.